Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Paquita Parra. Paquita Parra, c'est le nom d'une jeune femme disparue il y a plus de 20 ans maintenant. Son corps est retrouvé dans sa voiture calcinée un soir de décembre 1998 dans un bois près d'Angoulême. Par qui a-t-elle été tuée et pourquoi ? L'énigme judiciaire hante la famille et les enquêteurs pendant près de deux décennies. Beaucoup pensaient d'ailleurs que l'on ne découvrirait jamais la vérité. Jusqu'à ce qu'en 2017, une lycéenne trouve par hasard des éléments qui pourraient tout changer. Cet incroyable rebondissement permettra-t-il enfin de découvrir qui a tué Paquita ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Printemps 2017, dans la région d'Angoulême, en Charente. Une classe de lycéens participe à une sortie scolaire au milieu des bois. Une jeune élève de 16 ans découvre au pied d'un arbre une boîte légèrement enfouie sous la végétation. À l'intérieur, plusieurs cartes de fidélité et un porte-chéquier portant le nom d'une certaine Paquita Parra. Cette lycéenne ne le sait pas encore, mais sa découverte fortuite est sur le point de relancer l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières décennies. Tout commence 20 ans plus tôt, en 1998, à 15 km de là. Villebois-Lavalette est réputée pour son église et pour son château, l'une des plus belles localités des Charentes.
Villebois-Lavalette, c'est un petit endroit très calme, très paisible, un petit village vraiment dans la nature, à quelques kilomètres d'Angoulême.
Lucille Martin, journaliste police-justice.
En fait, l'ambiance de ce village, c'est tout le monde se connaît, il y a très peu d'habitants.
Des gens qui se connaissent.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Qui se côtoient au quotidien dans un environnement vraiment, j'irais, protégé, tout à fait paisible et tranquille.
C'est ici, au cœur de la campagne charentaise, que les Parra sont installés depuis les années 60. Cette famille nombreuse fait partie du paysage.
La famille Parra est assez connue à Villebois-Lavalette parce que déjà c'est une famille de 6 enfants d'origine espagnole, andalouse plus particulièrement.
C'est 5 frères et puis Paquita, la petite sœur, la petite dernière.
Christine Maz, avocate des parties civiles.
Qui est celle qui est chouchoutée. Elle a une relation très proche avec sa mère.
Elle a une habitude d'ailleurs, c'est qu'en sortant du travail, tous les jours, elle passe voir sa maman. Tous les jours sans exception.
Francesca Parra, surnommée Paquita, est la seule fille de la famille. Sa joie de vivre fait le bonheur de Carmen, sa mère.
Pour moi, elle était belle.
Carmen Parra, mère de Paquita.
Vive et gracieuse. Elle riait tout le temps. Ses frères étaient fous avec elle, à tous.
C'était la seule fille, donc c'était notre petit cadeau, notre petit bijou.
Jean-Marie Parra, frère de Paquita.
Donc on en prenait soin, on l'a chouchouté, on l'a taquiné aussi pas mal. C'était plus fort que nous, c'était naturel, quoi.
Une fille au milieu de 5 frères, avec des caractères tous différents, bien entendu.
David Parra, frère de Paquita.
Elle était très respectée, nous la respections beaucoup, oui.
Et de cette sœur, les frères de Paquita en sont aussi très fiers. Une jeune femme que tout le monde connaît ici, à Villebois-Lavalette.
On se retourne facilement sur elle dans la rue. Et puis aussi, c'est une jolie jeune femme très coquette qui prend soin d'elle.
Elle était toujours super bien apprêtée.
Émilie Parra, nièce de Paquita.
Elle avait toujours ses bijoux, un accessoire de ses cheveux. Paquita, pour moi, a toujours été un modèle. Quand elle venait à la maison, c'était un petit rayon de soleil.
À tout juste 30 ans, Paquita vit seule, ici, rue de l'église, en plein centre du village. Voilà plusieurs années qu'elle travaille à côté d'Angoulême. Elle est employée dans la base logistique d'une grande surface.
Elle avait un emploi stable où elle était reconnue. Le seul manque au tableau, c'était sa vie privée.
On sentait bien qu'elle avait la fibre maternelle et on voyait vraiment qu'elle avait envie d'un bébé.
Elle voulait un enfant à tout prix. Mais écoute, tu vas trouver quelqu'un, bien, et tu auras un enfant, comme tout le monde.
Depuis quelques mois, Paquita entretient bien une relation avec un certain Patrick, l'un de ses collègues de travail, mais qu'elle n'imagine pas comme le futur père de ses enfants.
Il s'entendait bien, lui était calme, posé. Franchement, c'était le mec qu'on aurait aimé avoir comme beau-frère.
Mais voilà, elle est à un stade à 30 ans où elle n'a pas encore rencontré la personne avec qui elle pourra construire une vie de famille.
Une grande famille qui l'entoure et des projets plein la tête, en particulier celui de devenir un jour maman. Ainsi va l'existence de Paquita Parra, une jeune femme insouciante à qui l'avenir devait sourire. Jusqu'au 3 décembre 1998. La vallée des Eaux Claires, à 10 km au sud d'Angoulême. Un lieu très fréquenté par les promeneurs et les amateurs d'escalade. Mais à la nuit tombée, tout est désert.
Ce soir du 3 décembre 1998, il fait vraiment très froid à cette période de l'année. Il fait nuit très tôt.
Il fait très sombre. C'est un moment qui n'appelle pas la promenade du soir.
C'est un endroit bucolique pour le week-end quand il fait beau, quand on y va en famille, quand on y va escalader. La nuit, c'est lugubre.
Il est un peu moins de 4 heures du matin. La vallée des Eaux Claires est totalement plongée dans l'obscurité.
C'est une patrouille de gendarmes qui descend, comme ça, pour jeter un œil, par routine, qui, en arrivant dans la vallée, découvre sur le parking une voiture calcinée, encore chaude, encore fumante.
En s'approchant de cette carcasse, les gendarmes vont découvrir des braises au niveau des pneus, la fumée qui sort encore. Voilà, ils comprennent très vite que l'incendie est en train de se terminer, vient de se terminer.
L'incendie a été rapide et très violent. Les gendarmes s'interrogent. S'agirait-il d'un accident de la route? Peu probable. Il n'y a ni trace de freinage, ni trace de choc sur la voiture.
Et en s'approchant à l'intérieur du véhicule, en regardant à l'intérieur, ils découvrent ce qui semble être un corps.
Un corps totalement carbonisé au volant du véhicule. Il est à l'état de squelette carbonisé, donc c'est une vision apocalyptique, vraiment.
En pleine nuit, impossible pour les gendarmes d'identifier ce corps. Mais d'après leur toute première constatation, cet incendie serait d'origine criminelle.
Le pare-brise semble avoir été découpé, enlevé et déposé, peut-être pour accélérer la combustion, peut-être pour s'assurer que la voiture brûle entièrement.
tout a fondu, les vitres sur les côtés ont fondu. Il y a une chose qui reste, c'est la plaque d'immatriculation qui est encore visible.
Donc évidemment qu'on va avancer très simplement pour identifier le propriétaire de ce véhicule et puis on va l'identifier, mais vraiment immédiatement.
En inspectant l'habitacle, les gendarmes ne trouvent qu'un seul indice, une paire de lunettes carbonisées. Quant au fichier des cartes grises, il est formel, ce véhicule appartient à Para Francesca, une jeune femme connue ici sous le nom de Paquita.
Au petit matin, les gendarmes vont venir toquer à la porte.
Lucille Martin, journaliste police-justice.
De Carmen Para, de la maman de Francesca Para.
Il était 6 heures quand ils sont arrivés à la maison. Il y avait David. « Si vous ne pouvez pas appeler ta maman ?»« Non, ma mère, elle dort, elle ne voulait pas l'appeler. »
J'ai réveillé ma mère et là, on a découvert l'étendue du drame.
Il dit « Paquita, il portait des lunettes. » J'ai dit « Oui. » Il me montre les lunettes à Paquita. Oh, je dis « C'est ma fille, mais brûlée. »
Pour la famille, c'est le choc. Ce sont bien les lunettes de Paquita. Ses frères sont aussitôt conduits sur les lieux de l'incendie. À leur arrivée, le corps carbonisé vient d'être évacué. Ils envisagent évidemment le pire.
La voiture était fumante, il y avait encore cette odeur qui restait dans l'air.
Jean-Marie Para, frère de Paquita.
Et je me suis approché de la voiture et j'ai vu que le siège conducteur était reculé à fond.
Paquita, elle est plutôt petite, 1m57.
Christine Maz, avocate des parties civiles.
Elle ne peut pas conduire dans la position de ce siège conducteur qui est très reculé dans l'habitacle du véhicule.
Et si quelqu'un avait volé sa voiture pendant la nuit ? Soudain, l'espoir renaît chez les frères de Paquita. Et si, en réalité, ce corps horriblement calciné n'était pas le sien. Pour s'en assurer, ils foncent à son domicile.
Et là, on rentre, il n'y a pas de désordre, tout est rangé correctement, tout est à sa place, quoi.
Nous sommes montés à l'étage, le lit n'était pas défait.
David Para, frère de Paquita.
Vous voyez bien qu'elle n'était pas rentrée la nuit.
On a espéré, mais bon, ça, on a vite déchanté, quoi. Ça peut être que notre sœur, malheureusement.
Parce que son véhicule trouvé carbonisé, on venait de découvrir son habitation totalement vide. On était sûr que c'était Paquita, en fait.
Pour la famille, il n'y a plus de place pour le doute. D'autant que les gendarmes l'établissent très vite, grâce au relevé d'empreintes dentaires, le corps retrouvé aux eaux claires est bien celui de Paquita.
J'espère toujours, mais à sortir de la Saint-Damel.
Carmen Para, mère de Paquita.
Je me rappelle ça parce que là, je me l'ai à crier. Et tu es arrivé à crier à la maison.
Alors là, pour la famille, c'est le coup de massue. Et on sent que leur vie ne sera plus jamais la même. Il y a toute une partie d'eux qui est morte avec Paquita.
Le soir venu, il faut encore annoncer la terrible nouvelle à Émilie, cette nièce de 13 ans qui adorait Paquita et qui l'admirait tant.
Mon père est venu me voir dans la chambre.
Émilie Para, nièce de Paquita.
Il s'est assis. Et puis il m'a dit que Paquita était partie, que Paquita était morte, que voilà, il m'avait fait du mal. Donc je savais que voilà, on avait fait du mal à ma tante. C'était.
On vous a demandé si on voulait voir le corps de Paquita. C'est normal, il faut qu'on voie notre sœur. Quel que soit son état, il faut qu'on la voie. Et c'est une chose qui est très dure à voir. Très, très dure. Mais on était conscients, c'était notre sœur, il fallait faire.
Alors que ce drame laisse une famille dévastée, les investigations sont confiées à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Angoulême. Première priorité, pour ces enquêteurs aguerris, expertiser la voiture afin de comprendre comment elle a été incendiée.
Évidemment, tout ce qui est lié à la combustion sera analysé et des traces d'hydrocarbures seront objectivées par les experts.
En fait, la voiture a été remplie de papier avec des allumettes, on y a mis le feu. Et en plus de ça, on va découvrir qu'il y a eu un apport de carburant d'essence.
Tout a été mis en œuvre.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Pour ne laisser aucune trace. Et ça a fonctionné très bien.
Il faudra donc des expertises plus approfondies pour espérer trouver d'autres indices. Alors les gendarmes attendent beaucoup de l'autopsie. Un corps calciné dont l'examen fait définitivement basculer cette enquête.
Et ces analyses vont nous apprendre quelque chose d'important. C'est l'analyse des poumons, en fait, qui va déterminer qu'il n'y a pas de traces de suie dans ces poumons. Ce qui veut dire que la jeune femme n'a pas respiré dans l'incendie. Et si elle n'a pas respiré dans l'incendie, ça voulait dire qu'elle était déjà morte. Donc elle a été tuée avant d'être incendiée.
Un homicide suivi d'un violent incendie. Dans l'esprit des enquêteurs, la piste criminelle fait désormais figure de certitude, même s'il est impossible d'établir dans quelles circonstances la victime a été tuée.
Ce qui est assez insupportable, notamment pour la famille dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas comment est décédée Paquita Parra. On ne sait pas si elle a été étranglée, si elle a reçu des coups de couteau, si elle a été battue à mort.
C'est dur. Hein. Ça veut dire s'il a souffert, s'il nous a appelés, s'il a eu peur, on ne sait rien.
On se dit que c'est impossible. C'est impossible. Un meurtre. Un meurtre dans la famille. Mais non, non. Une personne aussi gentille, pourquoi lui faire du mal? C'est impossible.
Peu ou pas d'indices et aucun témoin de l'incendie. Les gendarmes le savent, leur enquête s'annonce difficile. Impossible aussi de savoir si le crime a bien eu lieu sur ce parking.
Ce qui se dessine dans un premier temps, c'est d'abord la découverte de ce véhicule dans un endroit assez caché.
Donc on peut difficilement l'imaginer descendre seul, en voiture, en pleine nuit, dans la vallée des Eaux Claires.
On connaissait notre sœur quand même. On savait ses craintes, on savait sa façon de vivre. On savait très bien qu'elle était trouillarde. Et elle n'aimait pas conduire la nuit. Donc en plus, dans cet endroit, non, c'était impossible.
Pour les frères de la victime, Paquita n'avait aucune raison de se trouver là. Surtout au beau milieu de la nuit. À moins d'y avoir été amenée par quelqu'un, de gré ou de force.
Elle a peut-être eu un rendez-vous préalable, mais pas là-bas.
David Parra, frère de Paquita.
Mais elle a été, pour moi, tuée ailleurs qu'à cet endroit. Elle a sans doute été transportée.
On l'a ramenée sur ce site pour être sûr d'être tranquille.
Jean-Marie Parra, frère de Paquita.
Étant donné que la nuit, en plein hiver, il n'y a pas de passage.
Du côté de la famille, comme des enquêteurs, les interrogations sont nombreuses. Paquita a-t-elle été kidnappée avant d'être assassinée? Et surtout, qui a bien pu s'en prendre à elle? Ce meurtre sème la consternation à Villebois-Lavalette.
Quand les habitants apprennent la mort de Paquita Parra,
Lucille Martin, journaliste police-justice.
C'est un véritable coup de tonnerre dans ce village.
C'est la stupeur, même dans le secteur, même dans tout ce département. On a rarement vu un crime aussi violent.
Et puis, les gens vont se pointer du doigt, vont avoir peur aussi, en se disant « mais il y a un meurtrier qui rôde parmi nous ».
Un climat de psychose s'installe dans la région. Alors, crime de rôdeur, agression sexuelle qui aurait mal tourné, meurtre crapuleux, tous les scénarios sont envisagés.
Alors les gendarmes, finalement, dès le départ, n'ont pas beaucoup d'hypothèses de travail, n'ont pas trop de pistes à creuser.
Il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas les techniques de police scientifique qu'on maîtrise aujourd'hui.
Oui, le contexte de l'époque, 1998...
Christine Maz, avocate des parties civiles.
On n'est pas sur des investigations techniques qui sont aussi poussées que celles que nous avons aujourd'hui.
Faute d'éléments scientifiques, les gendarmes n'ont plus qu'une solution. Retracer l'emploi du temps de Paquita, heure par heure, le jour de sa mort. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre?
On va le reconstituer très rapidement, l'emploi du temps de la victime. Ça n'a pas fait l'objet d'ailleurs de très grosses difficultés d'enquête.
C'est une journée qui se déroule vraiment comme toutes les autres. Paquita Parra se lève, va travailler. Elle quitte son travail à 17h30, normal, un détail près. C'est que Paquita Parra avait toujours cette habitude de passer voir sa maman, tous les soirs après le travail. Ce jour-là, elle n'y va pas.
Pourquoi Paquita n'est-elle pas venue voir sa mère? Les enquêteurs obtiennent alors une information qui pourrait tout expliquer. Ce jeudi 3 décembre 1998, la victime s'est rendue directement après son travail à la gendarmerie de Villebois-Lavalette.
Et elle demande à être entendue dans une histoire de chèque volé, qu'elle a déclaré volé quelques mois avant, donc le mois de décembre où nous sommes. Cet élément-là est très, très, très important. Elle va voir les gendarmes le jour où elle va mourir.
Il est 19h, on est en fin de journée.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Ça n'arrange personne, apparemment.
Et puis, ben non, il ne peut pas la recevoir parce que le rendez-vous est prévu, le samedi.
Or, d'après le gendarme de permanence, cette jeune femme paraissait agitée. Elle a même insisté pour être auditionnée à propos de son vol de chéquier.
Apparemment, elle aurait dit aux gendarmes, samedi sera trop tard. Bon, je pense qu'elle voulait traiter cette chose-là au plus vite possible, de manière à avoir la paix.
Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que quand elle voit ce gendarme, elle va lui demander si c'est possible qu'on la mette sur écoute téléphonique, comment ça se passe, est-ce que ça peut se faire.
Pourquoi Paquita voulait-elle qu'on enregistre ces conversations? Se sentait-elle menacée? Aurait-on pu la sauver? Ces révélations font l'effet d'une douche froide sur sa famille.
Eh bien, ça nous fait tout bizarre. On ne demande pas à être placé sous écoute comme ça du jour au lendemain pour un oui et pour un non. C'est quand même quelque chose qui doit être très grave.
Une femme qui arrive, dont ils connaissent l'identité, qui vient pour, avec ce genre de propos, qu'elle laisse repartir et qu'elle soit assassinée, on la retrouve morte dans la nuit.
Et là, parce que si une personne n'a pas voulu prendre le temps d'écouter la Paquita, on ne saura pas.
Une question sans réponse, mais qui obsède à la fois ses proches et les gendarmes. Car la trace de Paquita se perd moins d'une demi-heure plus tard.
Elle est retournée chez elle et les derniers témoins l'ont vue devant chez elle monter dans sa voiture aux alentours de 19h30 à peu près.
On a une certitude, c'est qu'elle a quitté son domicile à 19h30. Elle a été vue par un voisin en train de quitter son domicile. On sent qu'elle se rend vraiment quelque part et puis après, elle se volatilise.
Paquita avait-elle un rendez-vous en lien avec son histoire de chéquier? Difficile de savoir ce qu'elle a fait après 19h30, jusqu'à la découverte de son corps bien plus tard dans la nuit.
Entre les deux, c'est le trou noir. C'est le vide absolu. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Il y a un trou dans son emploi du temps, inexplicable.
On la retrouve carbonisée dans sa voiture à 3h du matin. Entre deux, on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas où elle allait et on ne sait pas avec qui elle était. Il va y avoir un appel à témoins dans la presse lancé par les gendarmes pour essayer de retrouver quelqu'un qui aurait pu la voir, quoi.
Et le jour même, cet appel à témoins porte ses fruits. Un automobiliste contacte la gendarmerie. Le soir des faits, il a justement traversé la vallée des Eaux Claires.
Une personne va passer en voiture et va repérer un véhicule qui se tient sur le bord de la route.
Au moment de croiser la voiture qui était stationnée, il a vu une silhouette, ce qu'il a identifié comme une femme brune qui baisse la tête à son passage.
D'après ce témoin, aucune confusion possible. C'est bien Paquita, la victime, qu'il a croisée cette nuit-là sur les coups de 22h.
Il reconnaît la photo du journal. Il est à 100% sûr de lui. Il se rappelle même qu'elle a regardé la voiture arriver, comme si elle cherchait à savoir si c'était la voiture qu'elle attendait. Et quand elle a vu que c'était pas la voiture qu'elle attendait...
Lucille Martin, journaliste police-justice.
Elle a tourné sa tête comme s'il fallait pas qu'on la voie. Le problème, c'est que personne ne peut imaginer Paquita attendre seule dans sa voiture.
Ce témoignage soulève de nouvelles interrogations parmi les enquêteurs. Qui Paquita attendait-elle sur ce parking? Pourquoi semblait-elle vouloir se cacher? Et ce n'est pas tout. Un autre témoin dit avoir vu des flammes dans la vallée vers 23 heures. Ce serait donc ici, entre 22 et 23 heures, que tout s'est joué. Le meurtre, puis l'incendie. Si Paquita a bien été tuée sur place, reste à savoir avec qui elle avait rendez-vous.
Mais en tout cas, la personne avec qui elle a été, elle le connaissait très bien.
Jean-Marie Parra, frère de Paquita.
Paquita ne serait pas déplacée le soir, en plein hiver, pour un oui ou pour un non.
Donc non, je pense très sincèrement.
Émilie Parra, nièce de Paquita.
C'était quelqu'un qu'elle connaissait bien et que forcément, on connaît.
La piste du crime de rôdeur vient de s'écrouler. Si Paquita se trouvait là en pleine nuit, c'était sûrement pour y retrouver une personne de confiance. Et si c'était dans sa vie sentimentale qu'il fallait chercher?
Alors les gendarmes apprennent que Paquita Parra est en couple depuis 8 mois, avec un jeune homme, un de ses collègues de travail d'ailleurs, un certain Patrick.
C'est quelqu'un qui est avec elle depuis un certain temps. C'est le petit ami officiel de Paquita avec qui ça semble pas trop mal se passer.
Patrick est donc convoqué comme témoin. Et face aux enquêteurs, il se montre sincèrement effondré par la mort de Paquita, sa petite amie.
Le garçon est sympathique, il est footballeur, il passe beaucoup de temps au sport, aux entraînements de foot.
C'est un garçon qui joue au foot.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Ce sera d'ailleurs son alibi pour le soir du meurtre.
En fait, on a du mal à imaginer que ça puisse, lui, être le meurtrier parce que, bah, tout simplement, il n'avait aucune raison de tuer Paquita.
Pas de mobile et un solide alibi, l'actuel petit ami de Paquita est mis hors de cause. Reste qu'en interrogeant plus en détail les proches de la victime, les gendarmes se retrouvent devant une autre hypothèse.
Mais finalement, grâce à la famille, grâce aux frères de Paquita, ils vont se rendre compte que dans l'entourage de Paquita, il y a une personne sur laquelle il faut se poser des questions. C'est l'ex-petite amie de Paquita Parra.
Ce précédent compagnon s'appelle Christophe. Il a 31 ans. Et contrairement à Patrick, il n'a jamais fait l'unanimité au sein de la famille Parra.
Alors Christophe, c'est un artiste peintre qui vit encore chez ses parents. En fait, ses parents ont une belle maison et lui a aménagé un atelier de peinture juste à côté.
Il était... pour moi, il venait d'une autre planète. Il venait d'une autre planète.
Cheveux longs, un peu rock'n'roll, blouson en cuir. Beau gosse, hein, plutôt beau gosse. Et c'est tout à fait le genre de garçon qu'aime Paquita. Paquita est un peu attirée par les bad boys.
Cet artiste peintre a partagé la vie de Paquita pendant plus de 3 ans. Une relation dont les gendarmes comprennent qu'elle a été très fusionnelle.
C'était clairement de la passion. Quand on avait des repas, ils étaient enlacés et tout. Ça était même un petit peu gênant parce que ça... On n'a pas l'habitude de ça dans la famille.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui faisait tout pour qu'on ne l'aime pas.
David Parra, frère de Paquita.
Qui avait des propos assez violents et qui se faisait détester dès qu'il arrivait dans un endroit.
Au fil des auditions, c'est un drôle de portrait qui se dessine de Christophe. Celui d'un provocateur qui adorait par-dessus tout s'afficher au bras de Paquita.
Ça le valorisait, voilà. Il était heureux d'être avec Paquita parce que c'était une belle femme. Et quand ils allaient dans les soirées, tout ça, il se vantait d'avoir la plus belle femme.
Christophe a un comportement avec elle assez particulier dans le sens où c'est un petit peu sa chose. Elle m'appartient, elle est à moi.
Christophe,
Christine Maz, avocate des parties civiles,
est un homme terriblement passionnel avec elle.
Pourtant, derrière cette relation se cacherait une réalité beaucoup moins romantique. Car selon ses proches, Paquita n'était pas si heureuse qu'on pouvait le croire.
Elle était jaloux. Pour que Dieu savait qu'elle m'a traité.
Carmen Parra, mère de Paquita.
Il ne me le disait pas, mais on le voyait. Elle avait cassé une dent et tout.
Elle avait une dent cassée, elle avait les lèvres gonflées. Je vous dis, elle était dans l'état comateux. Non, c'est vraiment... c'est arrivé plusieurs fois. On va s'occuper de son cas. C'est qu'un mec, t'as 5 frères, quand même, on va en arriver à bout, c'est rigolo. Et elle disait, non, je veux pas, parce que vous avez des familles, je veux pas que vous ayez de problèmes.
Les enquêteurs commencent à y voir plus clair sur cette liaison très orageuse à laquelle Paquita avait mis un terme définitif 1 an avant le crime.
Paquita, oui, sous emprise totale, voulant le quitter, mais c'est je t'aime non plus.
C'était un amour vache, parce qu'ils se sont laissés, se sont remis ensemble. À chaque fois, Paquita prenait des coups.
Il n'y a pas eu de plainte déposée, certes, mais il y a eu plusieurs épisodes de violence. Il est capable de violence. Alors, est-ce qu'il était capable de la tuer ?
C'est désormais la principale interrogation des gendarmes. Christophe aurait-il mal supporté cette séparation ? Serait-il capable d'avoir attiré Paquita dans un guet-apens ? Alors qu'un mobile commence à se dessiner, ils isolent de nouveaux indices en examinant la voiture calcinée. Une découverte qui pourrait s'avérer décisive dans cette affaire.
Un tube de gouache. Christophe est artiste peintre.
Lucille Martin, journaliste police-justice.
Il peint avec des gouaches. Et puis, il y a une lame de cutter. Et Christophe peint avec des lames de cutter.
La lame de cutter, le tube de gouache, c'est des éléments avec lesquels Christophe travaille de manière habituelle.
Ce qu'il met en tête de la liste des suspects. Il avait tout pour déplaire. Il avait tout pour déplaire, il avait tout pour plaire aux enquêteurs.
Ce ne sont pas des preuves, mais de simples indices. Pourtant, le 28 septembre 1999, Christophe est placé en garde à vue. 11 mois après le crime, les gendarmes espèrent beaucoup de ces éléments nouveaux. Sauf que le suspect est décidé à se défendre.
Il va surtout clamer son innocence et tout de suite, il va dire qu'il n'a rien à voir dans cette affaire-là, qu'il n'avait aucune raison de tuer Paquita, qu'il ne la revoyait plus depuis janvier.
Il parle de sa relation avec Paquita, qui était pour lui de l'histoire ancienne, qu'il a tourné la page, qu'il fait d'autres choses.
Cette relation était terminée depuis plusieurs mois, depuis janvier 1998.
Si Christophe reconnaît avoir exercé des violences sur Paquita, il est catégorique. Il ne l'a plus revue depuis plusieurs mois. Mais en perquisitionnant son atelier d'artiste, les gendarmes tombent sur un nouvel indice compromettant.
C'est qu'ils ont découvert un ticket de caisse d'un supermarché qui date de la veille des faits, le 2 décembre, où il a acheté des gants en latex et 3 bidons de combustible. Ça interpelle quand on sait que la voiture de Paquita Parra a été remplie d'essence, de combustible.
Tout convergeait vers Christophe.
Jean-Marie Parra, frère de Paquita.
Parce qu'il achète du carburant, il achète des gants, il a tout pour être le principal suspect. Et pour nous, il l'était.
Même conviction chez les enquêteurs. Que signifient ces indices dans la voiture calcinée? Et surtout, cet achat de combustible juste avant le meurtre?
Il va s'expliquer sur ce ticket de caisse qu'on a retrouvé chez lui. Il va dire que des gants, il les a utilisés parce qu'il refait des travaux de peinture dans une entreprise. Puis il va expliquer que les 3 bidons de combustible, en fait, c'est de la térébenthine qu'il utilise pour ses travaux de peinture. Il apporte des explications.
D'ailleurs, Christophe assure qu'il ne pouvait être entre 22 et 23 heures sur les lieux du crime. Parce que, dit-il, il se trouvait à 25 km de là, à Angoulême.
L'alibi de Christophe, c'est que ce soir-là, il est en train de dîner avec un de ses amis qu'il n'a pas vu depuis longtemps.
Ce témoin va dire aux gendarmes, mais écoutez, moi j'ai été assez surpris parce que Christophe, c'est quelqu'un que je ne voyais plus depuis des mois et j'ai pas compris pourquoi ce soir-là il m'a appelé pour m'inviter au restaurant.
Le propriétaire et les clients du restaurant sont interrogés. Les deux hommes étaient bien présents. Mais d'après ces témoins, Christophe aurait eu le temps de se rendre aux eaux claires.
On se souvient qu'il y avait effectivement un type aux cheveux longs et un autre gars qui était installé pour manger.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Et lorsqu'on a quitté le restaurant vers 21h30, il n'y a plus personne à cette table. On a pu en déduire très logiquement qu'à 21h30, il avait quitté le restaurant.
Voilà. On a un peu cette sensation, enfin les gendarmes vont avoir cette sensation que est-ce que Christophe s'est pas monté un alibi?
Les enquêteurs en sont persuadés. Leur suspect aurait agi par désespoir amoureux. Pour eux, le scénario serait le suivant. Paquita aurait succombé à ses violences lors d'une dispute nocturne dans la vallée. Le 30 septembre 1999, Christophe est donc mis en examen et placé en détention pour homicide volontaire. Pour la famille Parra, c'est certain. La justice est en marche.
On a été soulagés, totalement. Et on s'est dit, bon, c'est bon, maintenant, on va savoir le pourquoi du comment. L'affaire va être classée assez rapidement.
Je pensais très sincèrement que Christophe était la personne qui avait fait du mal à Paqui.
Émilie Parra, nièce de Paquita.
J'en étais persuadée. Toute la famille en était persuadée.
Quand ils apprennent cette mise en examen, pour eux, ça y est, quoi. L'affaire va être jugée et terminée et on aura la vérité. Ils attendent que les aveux.
Mais contrairement à ce qu'imagine la famille, rien ne va se dérouler comme prévu. Depuis sa cellule, Christophe clame toujours son innocence. En désespoir de cause, la mère du suspect décide de contre-attaquer. Elle fait appel à un détective privé, et pas n'importe lequel. Roger Marc Moreau, l'un des spécialistes en France de la contre-enquête criminelle.
Elle était très angoissée parce que...
Roger Marc Moreau, criminaliste.
Elle était absolument certaine de la totale innocence de son fils.
On le décrit comme marginal, mais c'est un garçon qui... C'était pas un voyou d'Angoulême, ce n'est pas un délinquant chevronné. C'est un artiste.
C'était pas le genre idéal. En revanche, ça faisait le coupable idéal.
Pour l'enquêteur privé, Christophe n'a pas le profil d'un assassin. Bien au contraire. Et il reprend un par un tous les éléments du dossier.
Cette contre-enquête a consisté à retrouver les témoins, à refaire les emplois du temps, à remonter le fil de l'enquête.
Et effectivement, tous les témoins confirment la présence de Christophe et de son ami dans ce restaurant.
Reste à savoir à quelle heure précise Christophe et son ami ont quitté les lieux. La voiture de Paquita étant incendiée vers 22h, à 25 km de là, c'est un point capital. Or, ces témoins ne sont plus aussi affirmatifs. Ils ont pu croire, à tort, que les deux amis étaient partis dès 21h30.
La confusion vient du fait de cette table libérée. La table n'était pas débarrassée, mais elle était vide.
La table n'était pas débarrassée, disent-ils. Il y avait encore un briquet. Donc rien n'indiquait qu'ils avaient quitté le restaurant. Ils étaient peut-être simplement aux toilettes. Et par conséquent, ça ne tenait pas. Ils sont bien restés jusqu'à la fermeture du restaurant.
Et si Christophe avait tout simplement dit la vérité? En se plongeant dans le dossier d'instruction, son avocat et le détective font une découverte encore plus surprenante. Le juge a fait appel à un procédé très en vogue à l'époque, aux États-Unis.
1998, c'est un peu l'explosion du profiling, des profilers.
Lucille Martin, journaliste police-justice.
Donc le juge d'instruction va avoir cette idée-là, c'est de soumettre le profil de Christophe à une psychocriminologue.
Sa mission, c'est d'examiner les faits et à partir des faits, des témoignages, dessiner le profil psychologique d'un suspect.
Une mission à caractère expérimental. Cette profileuse entre en jeu au beau milieu de l'enquête, c'est-à-dire bien avant l'arrestation du suspect. Les enquêteurs misent beaucoup sur ses conclusions.
Je précise quand même que cette psychocriminologue s'est simplement entretenue avec les gendarmes par téléphone et n'a jamais rencontré Christophe.
Elle ne l'a jamais rencontré, elle ne connaît pas la famille, elle ne connaît pas la victime, elle ne connaît pas son histoire, sauf la vision qu'elle peut en avoir à travers le dossier. C'est un travail de dossier.
Et lorsqu'ils vont faire intervenir comme arme suprême cette psychocriminologue, elle rend une expertise complètement hallucinante. Elle va dire, c'est un psychopathe, c'est lui l'assassin.
Pour l'avocat de Christophe, c'est la stupéfaction. D'autant que cette psychologue a joué un rôle encore plus central. C'est écrit, noir sur blanc, sur les procès-verbaux.
Et où elle est allée au-delà vraiment de ses attributions, c'est qu'elle a continué à intervenir pendant la garde à vue.
Donc par téléphone, parce qu'elle est à Paris, eux ils sont à Angoulême, donc c'est elle qui va diriger toute la garde à vue. Et ça, c'est quelque chose d'interdit.
La psychologue aurait orienté le cours de l'enquête, ce qui est formellement proscrit par la loi. Alors que la famille de Paquita pensait tenir le coupable, tout est remis en question à cause de ce dysfonctionnement judiciaire.
Donc là, si vous voulez, l'avocat de la défense va monter au créneau et ça va être terrible pour cette enquête, ça va être terrible.
On va démolir avec l'avocat complètement la crédibilité de cette expertise psychocriminologique. C'est la justice rendue dans le marc de café. C'est irrationnel, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune valeur.
2 ans après la mort de Paquita, pour sa famille, c'est le scénario catastrophe. Cour d'appel de Bordeaux, septembre 2000. Le couperet tombe. L'avocat de Christophe obtient non seulement l'annulation de sa garde à vue, mais aussi le dessaisissement du juge d'Angoulême en charge du dossier Paquita. Voilà toute l'enquête réduite à néant.
La garde à vue n'existant plus.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Tout ce qui peut être l'extrapolation de la garde à vue a été annulé de fait.
C'est-à-dire qu'on n'a plus les PV de constat de perquisition du domicile de Christophe. On n'a plus tout ça. Ses premières auditions, ce qu'il a pu raconter aux gendarmes, tout ça, on ne l'a plus.
Du point de vue judiciaire, tous les indices recueillis contre Christophe n'existent plus. Résultat, il est remis en liberté après 12 mois de prison. Pour les gendarmes aussi, le désaveu est cinglant.
Il pouvait difficilement arriver quelque chose de pire dans ce dossier. Et c'est un coup de serpe. On se retrouve avec un dossier vidé de sa substance.
C'est un fiasco judiciaire. C'est un fiasco judiciaire.
Christine Maz, avocate des parties civiles.
C'est un naufrage procédural qui va entraîner des catastrophes humaines.
En avril 2002, 4 ans après les faits, Christophe est officiellement mis hors de cause par la justice. 100 000 euros d'indemnité lui sont même accordés pour détention abusive. Pour la famille Parra, tout s'effondre.
On est complètement abattu. On s'est battu pourquoi ?
Jean-Marie Parra, frère de Paquita.
Et le seul suspect, il le libère. On fait quoi ? C'est comme si on nous tuait Paquita une deuxième fois.
Les victimes, c'est celles qui sont là, les frères, la maman, qui ont été abandonnées par la justice.
Puisque la justice nous avait abandonnés.
David Parra, frère de Paquita.
On ne pouvait pas, de notre côté, abandonner notre sœur, non. Il fallait continuer. C'est un combat.
Sous la pression de la famille, les investigations reprennent. Mais le dossier Paquita Parra reste désespérément vide. En 2010, c'est l'ultime coup de grâce. La justice referme l'enquête par un non-lieu, faute de preuves ou de nouvelles pistes.
Et un non-lieu, c'est terrible, parce qu'un non-lieu, ça arrête toutes les investigations. C'est on clôt une affaire sans avoir la réponse. Et c'est pas imaginable, en fait. On peut pas laisser un meurtre comme ça, irrésolu.
On est complètement dégoûté. Dégoûté de la justice, on ne sait plus quoi faire, ni se voir à qui. Et dans ce cas-là, si la justice n'est pas capable de faire le travail, qu'est-ce qu'on fait ?
La mort de Paquita Parra restera-t-elle à jamais impunie ? Le ou les coupables échapperont-ils à la justice ? Pour réouvrir un jour l'enquête, la loi est formelle. Il faut que de nouveaux éléments apparaissent. Et en 2017, l'inimaginable finit par se produire. En avril, 20 ans après la mort de Paquita, alors que ses proches ont perdu l'espoir de connaître un jour la vérité, des lycéens participent à une sortie dans un bois près d'Angoulême.
Et il se trouve qu'un prof d'art plastique dit à ses élèves, allez chercher dans les bois tout ce qui peut vous inspirer pour effectuer un travail.
Faire une recherche dans ce bois d'éléments insolites, dit le prof.
Donc les élèves s'en vont dans le bois et une jeune fille, trouve une boîte plastique rose.
Une petite boîte rose qui va appeler son attention. Sous un arbre, fortement dissimulée.
Pour cette lycéenne de 16 ans, une découverte tout à fait anodine. Elle ouvre cette boîte qui contient divers objets.
Qu'est-ce qu'elle découvre ?
Lucille Martin, journaliste police-justice.
Elle découvre toute une série de cartes de fidélité. Elle découvre un porte-chéquier.
On trouve un porte-chéquier vide, on trouve des cartes de magasin, on trouve un badge professionnel.
Sur le moment, rien ne se passe. Elle n'accorde d'importance ni à cette boîte, ni à son contenu.
Personne n'exploite vraiment ce truc, on jette un œil là-dessus. Et la jeune fille reprend la boîte et la ramène chez elle.
Ce qui est incroyable, c'est que cette lycéenne, elle va la laisser sous son lit pendant plus d'un an.
Et c'est sa maman qui va découvrir ces objets alors qu'elle va ranger la chambre de sa fille.
C'est donc par hasard, un an plus tard, que cette mère de famille découvre la fameuse boîte. Immédiatement, elle s'interroge.
Elle va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces objets ? C'est quand même assez insolite d'avoir des formules de chèques. Des cartes Kofinoga.
Et donc, bien évidemment, premier réflexe, tiens, ben, on va essayer de passer sur Internet, voir si on peut retrouver cette dame et lui rendre ses affaires qu'on a retrouvées dans les bois.
Cette personne s'appelle Para Francesca. Quand la mère entre ce nom dans un moteur de recherche, c'est la surprise.
Tout de suite, elle va se rendre compte que c'est des objets appartenant à une jeune femme qui a été tuée il y a 20 ans.
Francesca Para, un cold case, l'affaire qui passionne la Charente depuis 20 ans.
Aussitôt prévenue, la gendarmerie prend cette découverte très au sérieux. Même si, vu leur état de conservation, ces indices n'ont pas pu passer tout ce temps dans la nature.
Ces objets ne sont pas là depuis 20 ans. Ils ont été déposés là, récemment. Et ils ont été déposés là. Ils ont été déposés là par qui ? Cette découverte-là a fait rebondir cette enquête de manière vraiment spectaculaire, hors norme. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça dans une affaire criminelle. On a l'impression d'être dans un film.
C'est totalement extraordinaire.
Jean-François Barré, journaliste à la Charente Libre.
Si on avait voulu en faire un scénario, on aurait dit non. Pas jusque-là quand même. Et en fait, c'est la réalité de ce dossier.
C'est le coup de théâtre. Ces cartes, et surtout ce porte-chéquier, auraient-ils un rapport avec le crime ? Car souvenez-vous, le jour de sa mort, Paquita avait alerté les gendarmes au sujet du vol de son carnet de chèques. Pour ses frères, pour toute sa famille, c'est un véritable tremblement de terre.
J'y croyais pas.
Émilie Para, nièce de Paquita.
Je me suis dit, mais c'est une blague. Retrouver des affaires de Paquita intactes dans un bois. C'est fou.
De retrouver ça, c'est miraculeux, tout à fait. C'est la chose qui nous manquait pour réouvrir le dossier.
Jean-Marie Para, frère de Paquita.
Et c'est ce qui nous permet de reprendre confiance et d'avoir espoir à nouveau.
Après tant de chagrin, après tant de déceptions, personne n'aurait imaginé un tel rebondissement. Pas même Carmen, la mère de la victime.
Carmen et Sade, mon Paquita, c'est ma fille. Et là, je me dis, voilà, je croyais que ça y est, on aurait trouvé déjà. J'avais envie de crier, de le dire.
Carmen Para, mère de Paquita.
Voilà, j'étais vraiment. Je ne sais pas, ça m'a fait... Je croyais déjà qu'on l'avait trouvé un criminel tout de suite.
Qui a conservé ces précieux indices? Un témoin? Un complice? Le meurtrier lui-même? Autant de questions auxquelles les gendarmes de la section de recherche de Poitiers doivent désormais répondre. Dans une affaire marquée par de graves dysfonctionnements, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Tout repose maintenant sur ces nouveaux éléments.
Investigation, ADN, expertise technique.
Christine Maz, avocate des parties civiles.
Vous imaginez bien que ça fait l'objet vraiment d'investigations très, très fortes.
Beaucoup de choses ont changé en 20 ans. Y a de nouvelles technologies. Certaines choses peuvent peut-être plus apparaître aujourd'hui qu'on aurait pu voir il y a 20 ans. Donc j'ai véritablement bon espoir.
Les gendarmes reprennent donc à zéro l'ensemble de cette enquête. Depuis l'incendie de la voiture jusqu'à ces indices providentiels qu'ils veulent faire parler coûte que coûte. Grâce au progrès de la science, les membres de la famille Parra peuvent espérer de nouveau obtenir la vérité. Ils misent beaucoup sur ces expertises ADN.
C'est la lumière parce qu'enfin, on retrouve des documents.
David Parra, frère de Paquita.
Appartenant à Paquita, non carbonisés, exploitables.
C'est peut-être notre dernière chance. C'est notre dernière chance. Je suppose que après, il n'y aura plus d'autres solutions.
On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. C'est impossible. Paqui est en nous. Elle est avec nous tout le temps. Elle n'est plus là aujourd'hui. On nous l'a pris. Mais oui, elle est là. Bien sûr qu'elle est là.
Tant qu'un point final ne sera pas mis à cette histoire, ce petit coin des Charentes restera hanté par le souvenir de Paquita Parra. Sa famille, elle, n'attend plus qu'une seule chose. Percer, enfin, les secrets de la vallée des eaux claires.
On va rien nous changer, on ne les ramènera pas. Mais bon, au moins savoir pourquoi. Savoir.
Ça sera une grosse libération. Grosse libération et se dire que, enfin, Paquita, on saura pourquoi.
Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.